vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, c'est fiction. Le cadeau. Bon, où c'est? Ah oui, là. Voyons voir. Un paysan polonais, apparition, lumière dans le ciel, alcool. Mouais. Suivant. Namibie, ok. Garage automobile. Ouais, pourquoi pas. Esprit malveillant, coup de clé à molette. Sérieux? Ok. Brésil, ok. Non, favela, ouais. Trafiquant et coup de feu. Ouais. Ensuite, machin, Japon, ouais, temple Shinto, des humanoïdes, affrontement avec des yakuza. Dans le film District 9, des extraterrestres sont arrivés sur Terre au-dessus de la ville de Johannesburg. À l'opposé complet des clichés qui avaient prévalu jusque-là, où c'était une grande métropole occidentale qui était leur point de chute. Eh bien, il faut croire que dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, ils ont eu la même idée. Ils ? Des visiteurs d'un autre monde, comme on dit. Des extraterrestres, pour être plus prosaïque. Le 16 avril 2056, la bourgade d'Elessine, en Belgique, va devenir le centre du monde. C'est dans cette petite ville de 3000 habitants que va se poser un vaisseau spatial et dont vont en sortir des humanoïdes relativement proches de nous. En ne faisant que les entrevoir, on pourrait les confondre avec des humains. Certains poils maladifs, mais à l'allure bien terrienne. Ils sont un peu plus petits que la moyenne européenne et ils ont un teint blanchâtre. Autre point caractéristique, ils ont tous la même coupe de cheveux. Femmes, hommes, jeunes, vieux, si tant est qu'on puisse les différencier de cette façon. Leur arrivée ne va pas se dérouler comme dans un film. Personne ne sait qu'ils arrivent. Le vaisseau n'a pas été détecté avant qu'il ne rentre dans l'atmosphère. Même à cette époque, les systèmes de détection des météorites sont anecdotiques. L'incident Portofino ne surviendra qu'en 2063. Le voilà donc qu'il se pose au carrefour de la Hungburstraat et de la Hardwurstraat. Pourquoi là ? Il voulait arriver sur une ville pour être au contact de la population de manière directe et simple. Un atterrissage dans un champ aurait pu compliquer l'accès aux gens du coin. Ils ont choisi une petite ville pour ne pas créer un mouvement de foule trop important, sur un terrain plat pour être stable, et parce qu'il faisait beau ce jour-là sur Elessine. Le hasard, parfois. Et un carrefour ? Eh bien, pour que les gens aient plusieurs voies d'accès au vaisseau. À ça, ils vont en avoir des accès, les gens. Mais pas forcément aux meilleurs représentants de l'espèce humaine. Le 16 avril 2056 est un dimanche, et le vaisseau s'y pose vers 7h30 du matin. Le hasard, encore lui, veut qu'une des routes qui passe par ce carrefour mène à une discothèque. Le Starlight. Et ce sont parmi ses derniers clients qui vont arriver sur ce fameux carrefour. Imaginez la scène. Trois jeunes hommes, plus ou moins enivrés, plus que moins, on va pas se mentir, qui filent en voiture à toute allure depuis le parking de la discothèque, musique à fond. Ça rigole, ça gesticule, ça blague. Au carrefour, le conducteur au réflexe diminué aperçoit un drôle d'objet sur le croisement. Freinage brusque, coup de volant, et voilà la voiture qui tape un des pieds du vaisseau. Déséquilibrée, elle part en tonneau. Plus de peur que de mal pour les comparses. Ils sortent de la voiture sans encombre, du moins au regard de leur état éthylique. Le conducteur est passablement énervé par l'état de son véhicule, et il va retourner sa colère contre les occupants du vaisseau, qui, alertés par le choc, sont sortis inspecter le pied qui a été touché. Tout occupés à leur vérification, ils n'entendent pas tout de suite le jeune homme s'approcher. C'est aux premières vociférations qu'ils vont se retourner vers lui. Le premier des visiteurs ne pourra pas esquiver le poing qui va s'écraser sur son visage. Et ses deux comparses qui l'accompagnent resteront comme figés lorsque celui-ci va s'effondrer, mis KO par le coup de poing. Leurs regards vont se reporter plusieurs fois sur leur camarade à terre et sur son assaillant. Ils ne semblent pas vraiment comprendre ce qui se passe. Leur expression est à mi-chemin entre la perplexité et l'indifférence. L'auteur de l'agression est décontenancé par leur attitude. Lui, qui se préparait à devoir affronter les deux autres personnages, se retrouve un peu bête. Pour se donner un peu de contenance et comme pour justifier de son acte, il les insulte. Il les traite de tous les noms sans pour autant provoquer de réaction de leur part, ce qui le déstabilise d'autant plus. Après une nouvelle bordée d'injures, il tourne les talons et retourne s'apitoyer sur le sort de sa voiture. De leur côté, les extraterrestres remontent dans le vaisseau sans vraiment prêter cas à leurs camarades encore allongés au sol. Celui-ci va se relever et remonter à bord, sans même un regard vers les jeunes gens. L'accident et les cris du conducteur ont réveillé les habitants proches du carrefour, et ceux-ci sortent les uns après les autres et se concentrent sur la voiture et ses occupants qui titubent, ressassent la colère ou vomissent. Un beau tableau. Mais curieusement, pendant plusieurs minutes, personne ne vint remarquer le vaisseau. Il faudra qu'un chien du voisinage commence à aboyer avec insistance contre ce dernier pour qu'enfin un des riverains se rende compte de ce qui s'est posé au croisement. Une des premières réactions sera de pester contre le Starlight. Comme quoi, il est inadmissible de pondre des horreurs pareilles pour se faire de la pub et que c'est dangereux de mettre ça au milieu du croisement. La preuve, ça a provoqué un accident. C'est le dépanneur qui viendra évacuer la voiture qui va vraiment se rendre compte de l'énormité de la situation. Il est un peu plus frais que les jeunes gens et plus réveillé que les riverains. Il va appeler la police fédérale. Enfin, une réaction logique depuis l'atterrissage. La première patrouille arrivée sur place va avoir du mal à expliquer à la hiérarchie ce qu'il y a devant elle. D'autant plus qu'une autre patrouille débarque. Parce que oui, le vaisseau s'est posé sur un carrefour, à cheval sur la démarcation entre la Wallonie et la Flandre. On aurait pu difficilement faire plus compliqué. C'est d'abord une guéguerre de juridiction qui va avoir lieu entre les deux régions, sans compter la barrière de la langue. Qui va s'en occuper? Personne ne veut avoir à gérer ce pataquès. Surtout que personne ne semble appréhender la situation. Un vaisseau extraterrestre est posé là et personne ne veut le voir. D'autant que les deux hiérarchies jointes par radio ne comprennent rien à ce qui se passe sur le terrain. Il faudra encore une heure pour qu'un officier du côté wallon ne vienne sur place et rame tout le banc et l'arrière-banc des autorités locales pour enfin prendre la mesure de l'événement. C'est une vidéo prise par un des trois jeunes présents dans la voiture accidentée qui va mettre le feu aux poudres. En attendant que la dépanneuse prenne en charge la voiture, il va la filmer et en faisant un panoramique, il va s'en prendre au vaisseau. Les spectateurs de la vidéo vont d'abord croire à une supercherie, mais certains reconnaissant le lieu vont s'y rendre et pourront confirmer la présence d'un objet de 100 mètres de haut au milieu du croisement. Il est tout de même fascinant de constater qu'il aura fallu une innocente vidéo d'un mec encore embué par l'alcool pour qu'une prise de conscience se fasse. Et c'est alors une chasse au scoop qui va s'organiser. Des dizaines de véhicules de télé et de radio vont se diriger en trombe vers la petite ville. À cela va se mêler une cohorte de véhicules de police, des deux régions évidemment, sans compter les badauds et autres ufologues autoproclamés qui vont débarquer par brassées pour tenter d'entrer en contact avec au choix des libérateurs, des dieux, des agents de l'apocalypse, j'en passe et des meilleurs. Le Capharnaüm est à la hauteur de votre imagination. Les médias seront les premiers sur le lieu au prix de nombreux accidents de la route, obligeant les policiers à faire plusieurs kilomètres à pied pour atteindre la zone. Il leur faudra près de 24 heures pour commencer à établir un cordon autour du vaisseau, au sol, mais aussi dans les airs. On ne compte plus les drones qui bourdonnent autour du vaisseau, des petits, des gros, des lents, des rapides, et fatalement dès qu'ils vont taper l'engin. Il sera environ une dizaine dans ce cas, avant qu'un brouilleur ne soit installé dans la zone. Ce serait quand même dommage de provoquer une guerre avec les visiteurs à cause d'un ado qui a voulu s'approcher au maximum du vaisseau. Bref, le calme revient dans la zone. Enfin, un calme tout relatif. Car il y a un monde fou venu du monde entier pour étudier le bestiau posé au milieu du carrefour. Le problème de compétence wallon-flamand a vite été réglé, et c'est l'armée qui a pris les choses en main. Le village d'Elessine est transformé en un camp militaire provisoire, les logements réquisitionnés, leurs habitants évacués. Il n'y a plus un civil à 10 km à la ronde, hormis les scientifiques qui vont avoir la lourde tâche d'entrer en contact avec les occupants du vaisseau. Ah oui, au fait, ils viennent quoi, ceux-là? Depuis l'incident avec le jeune homme ivre, ils ne sont pas ressortis. Ils ne sont peut-être pas au courant de ce qui se passe au dehors, ou alors ils le sont peut-être et sont effrayés par ce déploiement de force. Ils sont peut-être morts à cause de l'atmosphère terrestre qu'ils ont respirée. Ou alors ils attendent des renforts. 3 jours vont être nécessaires pour décider d'aller frapper à la porte du vaisseau. Il aura fallu une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour décider de la marche à suivre, entre ceux qui voulaient laisser les visiteurs faire, ceux qui voulaient tirer sur le vaisseau, et ceux qui optaient pour une solution plus pragmatique, toquer à la porte. Oui, mais comment? En tenue de protection, en civil, en uniforme, armé, seul ou à plusieurs? Et si oui, combien? Le professeur Bart de Melk, voyant que la réunion commençait à tourner au ridicule, on en était au choix de la couleur de la tenue de l'émissaire, décidera d'aller seul taper à la porte du vaisseau. Personne n'essaiera de l'en empêcher, ni ses collègues pris de stupeur devant l'audace d'un tel acte spontané, ni les militaires qui n'avaient reçu aucun ordre pour empêcher un des scientifiques de s'approcher du vaisseau. La porte s'ouvre, un des extraterrestres apparaît dans l'ouverture et... rien. Le professeur de Melk ne s'attendait visiblement pas à ce que la porte s'ouvre et l'extraterrestre le fixe impassible dans l'attente probable que l'autre dise quelque chose. « Bonjour » sera le premier mot d'une conversation lunaire. Le professeur de Melk, pris au dépourvu, n'a trouvé que ça à dire. Et visiblement, l'autre aussi. « Bon, voilà, tout le monde a dit bonjour, on fait quoi maintenant ?» Il va commencer à bégayer un pseudo-discours pour présenter la Terre et ses habitants et qu'il est enchanté de rencontrer un peuple venu d'une autre planète. Et qu'il espère que la paix régnera entre les deux planètes et que cette venue réconciliera les peuples de la Terre dans un élan fraternel universel. C'est à ce moment qu'il va se poser une question. Mais il comprend ce que je dis ? Les quelques secondes avant la réponse de l'extraterrestre vont lui durer une éternité. Et sa réponse sera « D'accord, paye ton moment historique ». Il n'empêche que cette initiative va débloquer le dialogue et c'est le patron de l'ONU qui viendra ensuite pour serrer la main des visiteurs. Là aussi, ce sera un léger moment de flottement. Le secrétaire général de l'ONU va tendre la main comme on le fait classiquement pour saluer quelqu'un et le représentant des extraterrestres va regarder la main sans bouger. Autant la poignée de main est un geste presque machinal en Occident pour entamer un échange, autant que représente-t-il sur la planète d'origine des visiteurs. Et tout le protocole de la première réunion entre les terriens et les extraterrestres sera du même tonneau. Des moments de gêne succédant au silence pesant. Mais à force de patience, une relation détendue va commencer à se nouer entre les deux parties. Ce qui n'empêchera pas quelques moments de solitude pour les terriens. Comme quand un chien, divaguant non loin du vaisseau, va se précipiter sur un des visiteurs, le même qui s'est fait frapper le premier jour, pour le mordre à la jambe droite. Celui-ci, impassible comme insensible à la douleur, va tout simplement pointer une sorte de lampe torche sur le chien et le faire disparaître. Événement qui sera bien évidemment filmé en direct, une dizaine de caméras étant pointées constamment sur le vaisseau, et qui jettera un froid pendant quelques heures dans le monde entier. Les plus pessimistes y voyant là le début d'une guerre d'invasion et intimement militaire de balancer une bombe atomique sur le vaisseau. Rien que ça. Un léger vent de panique va même souffler dans la zone de restriction autour du vaisseau pendant quelques heures. Jusqu'à ce que le chien réapparaisse à quelques kilomètres de là en parfaite santé. Ce qui ne refroidira pas les plus alarmistes qui verront l'avant-goût d'un affrontement. Toujours est-il qu'au bout de quelques semaines, les échanges se font plus fluides. Ça se limite tout de même à des banalités. D'où venez-vous? Comment vous vous appelez? Bref, du léger. Un jour, on les invite même à découvrir la région où ils sont arrivés. Pas avec le vaisseau, trop impressionnant pour la population, mais par la route. C'est plus sûr qu'en hélicoptère. C'est ainsi que, régulièrement, les Belges vont voir passer un énorme convoi de berlines noires qui n'aura rien à envier à celui du président des États-Unis. C'est bien joli tout ça, mais ils sont pas là pour faire du tourisme. Ils sont bien ici pour une bonne raison, non? Bah, voilà le problème. On ne sait pas pourquoi ils sont venus. À chaque fois qu'on leur pose la question, ils répondent pour découvrir d'autres civilisations. Donc, oui, mais dans quel but précis? À chaque fois, ils boitent en touche. Ils n'arriveraient pas à retranscrire l'idée dans un langage compréhensible par les humains. Ils doivent parler à leur chef ou ils sont fatigués. Au bout de 3 semaines d'échange, la relation entre les deux espèces n'a pas véritablement avancé et le caractère apathique des visiteurs commence à agacer les émissaires de l'ONU. Ils sont si indolents et si peu démonstratifs qu'on va bientôt les surnommer les ados. Au départ, ce qui paraissait être une réserve polie, voire de la déférence, passe maintenant pour un désintérêt quasi officiel. Toutes les initiatives pour les mettre en confiance ne reçoivent au mieux qu'un silence courtois, voire un dédain total. Même les diplomates les plus chevronnés en perdent leur latin. À tel point que le monde recommence à tourner. Les différents conflits de par le monde s'étaient arrêtés, comme si l'arrivée du vaisseau était un signe que l'on pouvait vivre en paix. Tout était beau. Plus rien ne justifie que l'on se batte. Baladons-nous la main dans la main, les chevaux au vent. Tout n'est qu'amour et joie. Peine perdue. Le message de paix universelle que l'on attendait impatiemment des extraterrestres et qui devait résoudre tous les problèmes sur Terre n'est jamais venu. Et chacun repart vaquer à ses occupations. Tout ça pour ça. Quelle déception. Et toujours aucune réponse à la question « Pourquoi êtes-vous là ?» Quand ils sont arrivés, ce fut d'abord la surprise, puis la peur, l'émerveillement, la curiosité, l'espoir, mais finalement c'est l'ennui qui commence à poindre. Ensuite vient l'exaspération. Ils existent, ils sont là, ok, mais après. Peut-être l'ont-ils senti. Et là, ils vont faire un geste vers les terriens. Ils vont faire un cadeau. Bon, pas que un, mais un à qui le voudra. En guise de bonne foi, ils vont offrir à chaque personne qui le souhaite un petit robot de compagnie. Ils vont dire qu'ils se sont rendus compte que leur attitude était mal perçue et qu'ils en sont navrés et que c'est dans leur nature d'être si peu démonstratifs. Leur histoire les a en quelque sorte rendus très stoïques, voire trop, et qu'ils aimeraient tout de même garder une bonne relation avec les habitants de la Terre. Et donc, ils offriront des petits robots pour maintenir le lien. Et pour éviter tout malentendu, ils laisseront les autorités expertiser plusieurs exemplaires dédiés robots pour s'assurer qu'ils ne sont pas nocifs. D'abord réticentes, les autorités vont jouer le jeu pour ne pas froisser les visiteurs, et une fois vérifiée l'innocuité des robots, accepteront la distribution. L'opinion publique va réagir favorablement à l'initiative, et l'offre aura un succès retentissant. On estime qu'environ 800 millions de robots seront offerts. Il a une drôle de bouille ce robot. On dirait une pieuvre. Il a un corps cylindrique, comme si on avait posé un champignon sur un petit plateau rond. Et sous ce plateau, on trouve 8 tentacules mécaniques qui font bouger l'engin et interagir avec son environnement. Il mesure environ 15 cm de haut pour 10 cm de diamètre, sans les tentacules. Il est noir, avec une sorte d'œil rouge sur sa partie supérieure. Il semble tout droit sorti d'un film de science-fiction des années 50. Si sa façon de bouger est déroutante au départ, on est vite conquis par son attitude joviale. Il deviendra vite le symbole des extraterrestres, les éclipsant totalement de la une des journaux. Loin des micros et des caméras, le contact va quand même se prolonger, mais on sent que l'excitation du départ commence à s'étioler. On leur pose de moins en moins de questions, ils sortent de moins en moins du vaisseau. Au bout de 4 mois, un matin, ils annoncent qu'ils doivent repartir. Leur planète d'origine a besoin d'eux. Pour qui, pourquoi, on ne le saura jamais. Une cérémonie d'adieu est organisée à la va-vite et sans émotion. Une poignée de main est immortalisée, mais personne n'est vraiment ému. Les 3 extraterrestres quittent la salle où a eu lieu la cérémonie, et marche d'un pas lent vers le vaisseau. Il monte à son bord, sans même se retourner ni jeter un dernier regard vers le comité de départ. La porte se ferme, et le vaisseau décolle, sans un bruit ni un souffle. À l'image de leur séjour sur Terre, sans éclat. Les responsables de l'ONU sont partagés. Ils sont tristes de voir partir les représentants d'une autre planète, sans savoir s'ils vont revenir, mais aussi soulagés. Bah, vous savez, comme quand vous quittez une soirée au cours de laquelle vous vous êtes passablement ennuyé, mais où vous êtes resté par politesse et pour voir si jamais il y a un truc sympa qui allait se passer. Mais non. Le seul point positif, ce sont les robots pieuvres. Ah, ça, ils ont eu du succès. Beaucoup de succès. Trop de succès ? L'ONU a fait appel à moi dès qu'ils ont eu vent de l'histoire des robots. Ils connaissent mon expertise dans le domaine et voulaient mon avis sur ces machines. Après analyse, ils ne semblaient pas piégés, mais ils disposaient d'un récepteur dont la fonctionnalité n'avait pas de rapport avec leur usage annoncé, c'est-à-dire de simples jouets. J'ai émis des doutes, mais ils ne m'ont pas écouté. La politique a ses raisons. J'ai aussi mené une enquête de mon côté quand le vaisseau est apparu. Ça me faisait penser à des incidents survenus partout dans le monde à un rythme plus élevé que la normale. Et à chaque fois, la description concordait avec celle du fameux vaisseau. D'après mon décompte, ils ont déjà essayé d'entrer en contact pas moins de 15 fois. Chaque fois sans succès, bien en tout cas moins que lorsqu'ils sont arrivés en Belgique. Mais j'ai aussi relevé d'autres contacts, moins pacifiques ceux-ci. Une centaine de cas où les visiteurs sont venus se servir dans des mines ou des carrières pour voler des métaux rares ou sensibles, comme de l'uranium. Les rares témoins ont pu décrire des humanoïdes à la peau pâle et au comportement apathique. Et si les premières tentatives de contact officiel n'étaient que des diversions ? Et que nos visiteurs cherchent un endroit qui serait médiatisé facilement pour capter l'attention. Bizarrement, les expéditions shopping se sont arrêtées le jour du départ du vaisseau officiel. Et si les robots pieuvres n'étaient là que pour faire de la prospection pour une éventuelle razzia ? Cheval de Troie, vous me dites ?